création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Pour eux, depuis longtemps, la philosophie informe leurs pratiques respectives. Cinéma, musique, radio. Ils veulent donner une chance à la dite philosophie de se faire entendre autrement que dans les livres ou au fil d'interviews, de cours ou de débats de philosophes. Ils veulent replacer la philosophie métaphysique dans un champ de réception duquel on a tendance à l'exclure, celui du tout un chacun, sans qu'elle ait à se vulgariser et sans qu'elle ait non plus à traiter des questions morales ou des conduites de vie censées concerner tout le monde. C'est une création radiophonique construite à partir d'un ensemble de commentaires du paragraphe 231 du principe d'individuation du philosophe et théologien Jean Duns Scott. Je le cite. Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que, par suite, elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi, par conséquent. Elle présuppose une entité absolue et distincte, et, ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction. Fin de citation. Franck Gourdien, Jean-Luc Guillonnet font avec Nathalie Battus et Bruno Mourlan le pari que la philosophie s'adresse à tout le monde à partir de ce texte réputé difficile et aux sources de la modernité. Sur une vingtaine de personnes rencontrées, dont des enfants, seuls trois sont des philosophes. Diffusé une première fois le 4 octobre 2012, Si l'on dit que les âmes tendent, atelier de création radiophonique, ACR.
Atelier de création radiophonique. Si l'on dit que les âmes tendent, à partir du texte de Jean Duns Scott, Le principe d'individuation, paragraphe 231, par Franck Gourdien et Jean-Luc Guillonnet.
Ouais, j'aimerais bien qu'on déforme ma voix.
Si l'on dit que les âmes tendent, ça je comprends.
Le problème que j'ai, c'est que moi, je réfléchis pas en lisant les textes à voix haute. Quand je lis à voix haute, c'est comme si je pensais pas. C'est comme si quelqu'un d'autre parlait à ma place. Sauf que je l'écouterais pas.
Bien, donc je lis le texte. Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que par suite elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte et ainsi cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction. J'ai lu le texte. Alors, sans répondre à présent à des quelconques questions, ce qui me frappe, c'est la place occupée par le vocabulaire qui concerne la physique.
Je m'y oppose. Ça veut dire qu'en fait, on donne la différence des âmes entre elles par des tendances différentes. Et lui, il est contre. C'est-à-dire qu'elle ne serait pas dirigée. Elle ne serait pas différente parce que leurs tendances sont différentes. Elle serait différente donc autrement, puisqu'il s'y oppose. Parce que la tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Alors ça, c'est difficile à comprendre, parce que...
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que par suite elles sont différentes parce que leurs tendances le sont. Je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte, et ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction.
Le principe d'individuation, paragraphe 231, Jean Duns Scott, né en 1266, mort en 1308, traduction du latin, Gérard Sondag, 1992.
Ah ben, je ne suis pas d'accord, moi je suis pas d'accord. D'ailleurs, ce texte est déjà absolument mal construit, puisqu'il dit « je m'y oppose ». Alors ça, le « je m'y oppose », je me demande bien de quel droit il dit « je ». Hein, c'est quoi ce jeu qui s'y oppose? Il s'oppose quoi aux tendances? Mais de quel droit? Et c'est son âme qui parle là ou quoi?
Mais non, il s'oppose pas ni aux tendances ni à l'âme. Il écrit une
si,
phrase.
Si, il commence, mais il non, s'oppose il aux écrit, tendances.
Il dit si l'on dit.
Ah bah, j'avais oublié le on. Là, il y a on, je et soi.
Donc il n'est pas en train de.
Donc c'est une hypothèse. Si l'on dit que les âmes tendent vers la prédilection, vers des corps différents grâce à leur aptitude, j'ai mis oppose. Oui, donc il s'oppose au on.
Oui, il s'oppose au
il
on.
Il s'oppose au on dit.
C'est bien on. Ça.
Voilà,
c'est...
Très bien. Il s'oppose au on dit.
Ce qui est intéressant, c'est que on est tellement entraîné au contexte. C'est-à-dire que le texte, c'est le contexte. Mmh. Que l'arrachement au contexte, presque en faire un graffiti mural, en quelque sorte, mais de haute qualité. Mais le lire comme un graffiti, c'est quelque chose qui fait que, surtout si on a l'impression de connaître un peu, ce qui fait qu'on n'a plus de base du tout. Beaucoup moins, je pense, que si on le lit vraiment. Ouais. À la limite, vous ne m'auriez pas dit qui c'était, vous auriez séparé le texte de son auteur, je serais sans doute senti plus libre.
On est différent parce que
alors si les esprits et les âmes c'est différent que ça existe pas,
et ben tout ce qu'on est en train de faire ça sert à rien et que le truc c'est que il faut trouver un synonyme de âme ou esprit.
Ouais, il me semble que son vocabulaire philosophique est si éloigné du mien que si je commençais à parler de ce que je croyais déceler, savoir une parole sur le déterminisme, je serais en train de me tromper. J'ai tendance à répondre effectivement dans l'actualité de mon vocabulaire conceptuel. Et puis tant pis si je me trompe, c'est pas grave, c'est pas important du tout. Ce qui est important, c'est qu'on puisse penser avec ça un peu.
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que par suite, elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose.
Je m'y oppose.
Je m'y oppose.
Ça veut dire qu'en fait...
Ça veut dire qu'en fait...
On donne la différence,
on donne
des,
la
âmes
différence des âmes entre elles...
Par des tendances différentes.
Et lui,
il est contre.
Il est contre.
C'est-à-dire
qu'elle ne serait
pas dirigée.
Pas dirigée.
Elle ne serait pas différente parce que leurs tendances sont différentes.
Elle serait différente donc autrement, puisqu'il s'y oppose.
Parce que
la tendance n'est pas une entité absolue,
car rien ne peut tendre vers soi.
Alors ça, c'est difficile à comprendre. Alors
ça, c'est difficile à comprendre, parce que la tendance n'est pas une entité absolue,
car rien ne peut tendre vers soi. Qu'est-ce que ça veut dire ?
On ne pourrait faire de différence entre les gens, on va dire, pour être un peu plus contemporain, non pas en vertu de ce vers quoi ils sont attirés. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il dit
vers des corps.
Donc on ne pourrait pas en faire,
faire des singularités.
A posteriori.
On ne peut qu'en faire des individus, quelque part. Parce que différents
Les uns des autres,
que antérieurement
à toute tendance, et que la fin ne peut pas supposer, on ne peut pas, à partir de ce qui arrive en fait, de ces tensions qui paraissent comme des espèces de choses qui échappent en fait aux âmes, puisque tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière, ça veut dire que quelque part ça leur échappe un petit peu, quoi. Ces âmes-là sont attirées par des choses ou sont tendues vers des corps qui sont pas des choses, hein, sans en être vraiment
Sans y être poussé par autre chose que quelque chose qui leur échappe.
Voilà,
et voilà. On ne peut pas, à partir de ça, déduire des différences entre les âmes et là.
Et là, j'ai l'impression de tourner en rond.
J'ai l'impression de tourner en rond.
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents, grâce à leur aptitude à informer de la matière, et que par suite elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte, et, ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction. Alors les âmes diffèrent. Les âmes diffèrent entre elles. Et comment est-ce qu'elles diffèrent entre elles? Elles ne diffèrent pas par leurs tendances. Par quoi alors?
Les âmes sont distinctes. Parce qu'elles sont distinctes. Pour Soumoulou, c'est un petit peu ça qu'il dit, puisqu'il faut faire abstraction d'une raison formelle de distinction. Donc elles sont distinctes pour des raisons informelles. Et donc, grosso modo, elles sont distinctes parce qu'elles sont distinctes. Oui, mais elles sont intrinsèquement différentes parce qu'elles sont différentes et pas parce qu'il y a un facteur qui les rend différentes. C'est marrant quand même.
Parce qu'un facteur qui pourrait les rendre différentes ne les rend pas différentes, donc elles sont différentes. Mais pas pour cette raison-là.
Ouais, j'aimerais qu'il me prouve que rien ne peut tendre vers soi, dans tous les cas, qu'il n'y a pas une seule exception au monde où on peut montrer le contraire.
Ouais, mais
Même à la limite, alors bon, on sort du sujet, mais un organisme qui s'auto-reproduirait, par exemple, ou je sais pas, des choses comme ça. Ou le bon Dieu qui se créerait lui-même, ou, enfin je veux dire, on peut imaginer tout, du plus petit au plus grand.
Est-ce que la tendance a forcément une cause et un objet ? Parce que là, la tendance est pensée comme une tension entre une cause et un objet. Donc forcément, elle s'auto-invalide si tu la penses comme ça, comme vers soi. Mais et si c'est pas ça ?
Voilà, c'est pas parce qu'on revient sur soi qu'on est dans le cercle, qu'on est dans la boucle, quoi.
Oui, mais ça, tout ça, il faut qu'il nous le prouve. Moi, je suis frustré. Alors, peut-être qu'il le fait à d'autres endroits, mais...
À la limite, on peut aussi admettre qu'au moment où la tendance revient vers soi, on n'est de nouveau plus le même. Et que donc, on est de nouveau autre chose. Par le temps qui passe ou tout ce que tu veux. Mais je continue à trouver que la preuve manque.
Ces âmes-là sont attirées par des choses ou sont tendues vers des
sans
corps
sans y être poussées par autre chose foules, que quelque chose qui leur échappe.
Sans y être poussées par autre chose que quelque chose qui leur échappe.
Admettons que, par exemple, on va parler de moi, dans le cas d'une hétérosexualité, on ne peut plus banal, d'une femme, voilà, d'une jeune fille.
Je suis attiré par elle, bien malgré moi, alors ça, ce serait à définir. Eh bien, ce n'est pas parce que moi, je suis attiré par elle et mon voisin, pas par elle, qu'on est différent.
Que la tendance ne soit pas une entité absolue, c'est aussi c'est comme une répétition de ce qu'il dit après.
Mais rien ne peut tendre vers soi. Ça, j'arrive pas trop à comprendre. Rien ne peut tendre vers soi.
Parce que elle est où l'âme là-dedans ? La tendance n'est pas une entité absolue. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre.
Bah, rien ne peut. Bah oui, remarque, c'est logique que rien ne tende vers soi. Le fait de tendre, ça suppose une distance. À moins qu'il y ait de l'espace à l'intérieur de soi. De tendre de soi à soi, c'est pas possible. Il fait des maths, en fait. Non ? Moi, je le comprends comme ça, tout simplement.
Bah, rien ne peut tendre. Oui, remarque, c'est logique. Rien ne peut tendre vers soi. Forcément, le fait de tendre, ça suppose une distance. À moins qu'il y ait de l'espace à l'intérieur de soi. De tendre de soi à soi, c'est pas possible. Il fait des maths, en fait, le mec. Non ? Moi, je le comprends comme ça, tout simplement. Tout simplement, comme... le tendre, tendre vers quelque chose, c'est forcément... c'est d'un point à un autre point. C'est pas d'un point au même point. Tu peux pas tendre... quand tu fais un point en maths, en géométrie, tu peux pas tendre vers rien quand t'es un point. Donc, il dit quelque chose d'autre finalement là. Quelque part, la tendance n'est pas une entité absolue car rien ne peut tendre vers soi. Donc, il dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il prouve que la tendance ne existe pas à l'âme, ni dans l'âme, ni ne préexiste à l'âme. Si on part des âmes. Si on part des âmes. Il pourrait partir d'autre chose. Mais là, il part des âmes.
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que par suite elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, Elle présuppose une entité absolue et distincte, et ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction.
Si tu es ce que tu fais, dans le sens où ce que tu fais démontre ce que tu es ce que tu fais. Donc tu es ce que tu fais, dans le sens où ce que tu fais démontre ce que tu es. Non. Lui, il dit on est différent. Hein ? On parle tous en même temps.
C'est ce que je comprends. À mon avis, le nœud du truc, c'est rien ne peut tendre vers soi. Il y a une instance qui détermine la tendance, ou est-ce que... Parce que la tendance ne peut pas s'informer elle-même. Je comprends ça.
Informer, pour moi, c'est donner forme et pas donner des informations.
Oui, parce que la tendance, ça indique quelque chose... Enfin, ça nous ramène à, je sais pas, à un truc a posteriori, qu'on constaterait, à de la statistique, enfin, un truc comme
ouais,
ça.
Un truc empirique.
Oui, la tendance, c'est pas la tendance de la mode, c'est quelque chose qu'on voit une fois que c'est établi...
Je veux bien admettre que rien ne peut tendre vers soi, mais j'attends une preuve.
Enfin, tu fais ce que tu es.
Non, parce que c'est déjà fait.
Ah, tu fais ce que tu es, c'est pas...
tu es ce que tu fais. Si, tu es ce que tu fais, dans le sens où ce que tu fais démontre ce que tu es.
Non. Lui, il dit, on est différent.
Que tu informes la matière, donc oui. Informe le fait.
Non. C'est là.
Parce que tu es.
On parle tout ça en même temps.
Qu'est-ce que ça veut dire que rien ne peut tendre vers soi, sachant qu'à la différence du XIIIe siècle, probablement...
En tout cas,
en 2008,
les gens
et moi le premier,
ont tendance à ne pouvoir tendre sous couvert
de tendre vers soi que vers les autres, ou en tout cas de se préoccuper sans cesse, de se décrypter, de se
pulvériser, de s'ausculter en permanence,
que ce soit chez le psy, ou en médecine,
en diététique, en tout ça.
On a l'impression que c'est un puits sans fond, comme ça, tout le monde s'enfonce. Une espèce d'abîme.
Or lui,
il dit tout simplement que c'est un abîme.
Et je crois que c'est cette phrase. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Ça, c'est très beau, parce qu'on a l'impression, au travers d'énoncés comme cela, qui sont presque des incises, que se révèle tout un univers, en fait.
Et le fait même qu'ils le disent comme une évidence est encore plus frappant. Enfin, c'est quelque chose, donc, on aurait tendance à dire, regarde la doctrine moderne...
libérale de l'égoïsme, que tout envers soi, que tout est sympathie.
Et qu'à la limite...
Si nous ne sommes pas strictement égoïstes, comme le disait Hume ou Adam Smith, c'est parce que...
On tend, sinon vers soi uniquement, mais on tend
vers les individus les plus égoïstes... ramène tout au désir de leur maîtresse, de leur famille, etc.
Tout est rebrassé. Et qu'on ait un texte, en fait, qui dise non pas simplement
rien ne peut tendre vers soi, mais le disent comme une telle évidence qu'il n'y a pas besoin de le justifier. C'est ça qui le rend tout à fait étranger à ce qu'on connaît.
Une différence des âmes, moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire en fait, de dire que les âmes sont différentes entre elles. Alors je pense que dans un contexte chrétien, probablement que poser la question des âmes, c'est est-ce que l'âme est une et indivisible et répartie entre tous les êtres, ou est-ce que chacun en posséderait une qui soit d'une nature différente. Alors quel terme est-ce qu'il emploie là par rapport à... elles sont différentes. Les âmes sont différentes entre elles. Voilà, c'est ce qu'il appelle... Ah non, c'est par rapport à la tendance, l'entité absolue. Dans un contexte chrétien, donc pour revenir, je pense que la question posée, c'est est-ce qu'on a tous la même âme, avec des tendances différentes, ou est-ce que ces âmes sont différentes entre elles. Bon, lui, il a l'air de dire que les âmes sont différentes. Voilà, cette âme-ci diffère de cette âme-là, et elles le sont différentes de manière absolue, en fait.
Qu'est-ce que c'est un absolu ?
chose. Quoi.
Ah ouais, mais en même temps.
Non, je dis que c'est pas relatif à quelque chose, c'est et c'est, dit que c'est et que c'est et que c'est ouais. humainement impensable l'absolu, puisque si c'est pensable, c'est relatif à la pensée humaine, donc c'est plus absolu.
Simplement, moi, la différence entre l'âme et le corps, je ne sais pas très bien ce que ça
veut dire. Je sais par contre
que mes tendances, elles
sont fabriquées, éduquées, même domestiquées, ou en tout cas orientées de manière depuis toujours, et que le travail peut-être consiste à le savoir et à le. Voilà.
Et que le travail peut-être
et que donc,
consiste à le savoir.
Je ne peux pas, à partir de là. Parler d'âme, tout simplement. Parce que je ne crois pas
que quelque chose préexiste
à mon corps.
Parce que je ne crois pas que quelque chose préexiste à mon corps.
Donc, comme je ne crois pas que quelque chose préexiste à mon corps, ou sans distingue, je ne peux absolument pas me poser le problème de la différence ou le problème de l'âme même. Je ne peux pas, ça me...
Only Scots.
Dance.
Tu me prêterais ton texte parce qu'il
mais est oui, oui, oui.
Et moi, je ne vois pas très facile. Bien.
C'est ce que
quand
je
pense, en fait, c'est mon âme qui pense. Donc je pense que c'est mon âme qui pense que je pense.
Quand je pense...
Je pense que c'est moi qui pense.
En fait,
il y a mon âme et il y a moi. Donc, mon âme
est c'est mon âme qui pense. Et donc, je pense que c'est mon âme qui pense. Qui pense que je pense. Moi, je pense. Et quand mon âme pense, enfin, non. Moi, je pense. Et quand c'est moi qui pense, c'est mon âme qui pense.
Qu'est-ce qu'on dit dans devenir soi-même, on dit, quand on dit ça, dans les magazines?
Admettre que...
Ben, ce qu'on dit,
oui,
c'est d'aller faire ses courses, en gros, toi. Non?
Quand je pense, en fait, c'est mon âme qui pense. Et donc, je pense que c'est mon âme qui pense que je pense. Ben, je pense... que c'est mon âme qui pense. Enfin, c'est en fait ça, il y a mon âme et il y a moi, donc mon âme elle est dans moi, et c'est mon âme qui pense que moi je pense que c'est l'âme qui pense. Moi je pense, et quand mon âme pense, enfin non, moi je pense, et quand c'est moi qui pense, c'est mon âme qui pense que je pense que c'est elle qui pense. Voilà. Parce que comme moi, de toute façon, c'est l'âme. C'est en fait, c'est un peu moi qui pense aussi. C'est l'âme et moi qui pense. Parce que, enfin, je sais pas pourquoi je dis « et » parce que c'est la même chose, en fait. Pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, c'est mélangé.
En fait, c'est mélangé.
Si on met un pull rouge et que le lendemain, on met un pull bleu, on a toujours le même sentiment. Mais c'est un corps, il est... Il reste... Il peut pas changer. Il peut changer en habit, en cheveux, en voilà. Mais l'âme, enfin l'esprit ou le cerveau, il est toujours pareil.
Parce que c'est le, en fait c'est notre
même si le parce que le cerveau il se met avec le corps, mais après il change pas. Sauf quand on apprend des choses, après elles vont rester à l'intérieur,
mais ça reste toujours à l'intérieur.
Le corps, en gros, c'est les poumons, tous les membres qu'on fait qu'on marche, notre face, et le cerveau, c'est la seule chose qui change dans l'homme.
C'est enfin, comme dans les êtres vivants.
En fait, un homme, c'est comme un robot, sauf qu'il y a une intelligence
qui est différente comme des
et
autres.
Tout le monde a une intelligence différente.
Moi, ça me fait du bien, en tout cas, de voir des gens danser, parce que il y a quelque chose qui se rapproche entre l'âme et le corps. Il y a quelque chose qui fusionne beaucoup plus, alors qu'on a tendance à pas penser à son corps, en fait, ou à un peu être encombré par son corps. Je sais pas.
Donc mais... toi, tu crois à la différence entre l'âme et le corps?
Non, moi, je pense.
Tu viens de le dire, pourtant.
Non, je crois que c'est ce qu'on a tendance à faire et. À pas s'encombrer de son corps, oui.
Non, mais déjà, sans aller parler des détails, comment les deux choses opèrent, tu penses qu'il y a deux choses. Il y a le corps et l'âme.
Non, bah, oui et non, enfin, c'est un tout, mais dans ce tout, on peut distinguer certaines choses quand même. Je veux dire, a priori, on n'a pas de cerveau dans le bout des doigts, et a priori, le cerveau, il est là. Enfin, je veux dire, il y a quand même un espèce d'ordonnancement qui existe. C'est-à-dire, différencier, ça veut dire nommer des lieux. Et c'est un peu compliqué en ce qui concerne l'âme et le corps, c'est un peu bizarre. Mais moi j'ai l'impression que la danse réduit cet espace, quoi, cette différenciation.
Moi j'ai pas l'impression qu'on a besoin de faire la différence entre un truc qu'on appellerait l'âme et un truc qu'on appellerait le corps. On peut très bien vivre sans.
Comment dire? Est-ce qu'on peut présenter les choses ainsi? Deux individus en fait diffèrent l'un de l'autre, d'accord? Mais deux individus vont différer l'un de l'autre à partir effectivement de quelque chose qu'ils ont en commun. À partir par exemple d'une espèce commune. Bon. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas différer l'un de l'autre à partir de, comment dire, de ce qu'ils ont en commun. On va dire ça comme ça. S'ils différaient l'un de l'autre par ce qu'ils ont en commun, ils ne différeraient pas. Or, ce qu'ils ont en commun, c'est quand même l'individuation, c'est-à-dire le fait d'être des individus. Donc en fait, comment ? Comprenez bien, si vous êtes un individu, et si moi je suis un individu, on est tous les deux des individus, donc le fait d'être des individus, ça nous rapproche. Comprenez ? Et si je commence à dire, oui mais ce qui nous individue, c'est ce que je suis, eh bien alors, vous reprenez la même thèse que l'individuation par la matière. Il n'y a pas quelque chose de positif. Si les choses se distinguent par l'individuation, hein, si l'individuation est quelque chose qu'ont en commun, en fait, les quelque chose qui individue les choses. Vous voyez? Et donc, en fait, le principe d'individuation n'est au sens strict rien. Si ce n'est l'actualisation ultime d'une chose, et comme ou l'actualisation, la réalisation ultime d'une chose, et à la limite, il faut bien comprendre que le principe d'individuation n'est rien de pensable séparément des choses qui l'individuent.
Comment dire, est-ce qu'on peut présenter les choses ainsi? Deux individus, en fait, diffèrent l'un de l'autre, d'accord? Mais deux individus vont différer l'un de l'autre, à partir, effectivement, de quelque chose qu'ils ont en commun, à partir, par exemple, d'une espèce commune. Bon. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas différer l'un de l'autre à partir de ce qu'ils ont en commun, on va dire ça comme ça. S'ils différaient l'un de l'autre parce que ce qu'ils ont en commun, ils ne différeraient pas. Or, ce qu'ils ont en commun, c'est quand même l'individuation, c'est le fait d'être des individus. Donc, en fait, comprenez bien, si vous êtes un individu, et si moi je suis un individu, on est tous les deux des individus. Donc, le fait d'être des individus, ça nous rapproche, vous comprenez? Et si je commence à dire, oui, mais ce qui nous individue, c'est ce que je suis, bah, alors vous reprenez la même thèse que l'individuation par la matière. Il n'y a pas quelque chose de positif. L'individuation ne vient même pas de la tendance, l'individuation ne vient même pas de la matière. On a une conception totalement positive en fait de la singularisation. Tout est singularisé, parce que si ce n'était pas singularisé, d'abord je ne pourrais pas véritablement le penser en tant que tel. Il faut nécessairement que les choses soient singularisées pour qu'elles puissent être pensables. Alors évidemment, cette singularisation se prenne une condition en fait pour connaître la chose en tant qu'une. Et ça, c'est une thèse très très forte de Scott. Alors là, il y a véritablement l'idée qu'il y a une individuation de l'âme avant même celle du corps. Mais par contre, il y a un problème aussi de l'individuation du corps lui-même. Ce que Scott est en train de dire ici à propos de l'âme, il pourrait le dire tout aussi bien ce serait également valable pour le corps. Et donc, effectivement, il y a une individuation du corps comme il y a une individuation de l'âme. Mais ce qui est fondamental, c'est que précisément, l'âme n'a pas besoin du corps pour être individuée. Si les choses se distinguent par l'individuation, si l'individuation est quelque chose, quoi en commun, en fait, les quelque chose qui individue les choses. Vous voyez Et donc, en fait, le principe d'individuation n'est au sens strict rien, si ce n'est l'actualisation ultime d'une chose. Et comme, ou l'actualisation, la réalisation ultime d'une chose. Et à la limite, il faut bien comprendre que le principe d'individuation n'est rien de pensable séparément des choses qui l'individuent. Vous ne pouvez pas penser le principe d'individuation séparément des choses qui l'individuent. Et pourtant, les choses sont individuées par elles-mêmes. Je ne sais pas si c'est clair.
Il se trouve que Don Scott a sur des questions purement théologiques, pas philosophiques. C'est des questions. Il y a les deux. En fait.
Ça réveille au moins.
Ça réveille. Donc. Et donc, je disais il y a très longtemps, mais je fais un retour, je pense que c'est très bien de lire, de parler de Don Scott par exemple dans un bar.
Ben, si les hommes ça existe, le texte ça veut dire que ben, voilà, que les âmes elles vont dans des autres corps quand les gens sont morts, et si les âmes ça existe pas, ben le texte il sert à rien.
En gros, toi, tu es comme tu es, parce qu'avant même d'être ce que tu es, tu préexistais dans une tendance.
C'était déjà toi-même.
Voilà. Bah si, super triste.
Je sais pas.
Bah, si, c'est horrible.
Non, mais ça veut pas dire que tu n'as
absolument... C'est mystique, quoi.
Enfin, je sais pas. Ça veut pas dire que t'as pas de...
Mais c'est
de
pour
jeu,
ça...
quoi. De...
C'est pour ça que je demandais, il est où les régimes de l'expérience ?
Ça veut pas dire que tu peux pas choisir.
Pas quelque chose.
Pas du tout de marge.
Non, mais je disais par rapport à l'idée. C'est comme
parce que tu disais c'est triste. Moi, je trouve pas ça forcément.
Non, mais je revenais dessus parce que bah, là, il y a comme l'idée de on est ce qu'on fait, elle est quand même couramment admise aujourd'hui. C'est glauque, hein, mais c'est.
Tu pourrais dire un truc comme ce qui compte, c'est ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi, quoi. Un truc comme ça, de cette chose préexistante. Ce que tu en fais est important, mais que de toute façon, quoi que tu en fasses, tu seras toujours que toi-même. Ouais. Ou que.
Mais en fait, toujours. Il ne parle pas de la suite. De
toute façon. Toi, tu peux t'imaginer la suite. Tu te connais assez bien.
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que par suite, elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue. Car rien ne peut tendre vers soi, par conséquent elle présuppose une entité absolue et distincte, et ainsi cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives.
Jean Don Scott, Le principe d'individuation, paragraphe 231.
C'est drôle, le jeu m'y oppose, alors... alors qu'elle a cette différence par leur tendance. Ce qui est drôle, c'est que dans le paradoxe même de ces trois paragraphes, je sais pas, ça me fait penser à la musique. Enfin, cette impossibilité de, à la fois de nouer les choses. Il y a un nœud là-dedans, mais que le par suite, c'est cool. Tu vois, tout à l'heure, j'étais dans le métro. Et je sais pas si les questions d'âme ou quoi que ce soit, mais on était dans le métro. On. Je sais pas qui, on. Par suite. J'ai l'impression qu'on formait tous chacun plutôt formait une note sans partition, mais il y avait une musique. Il y avait une musique. Musique qui déchire l'âme. C'est comme si elle déchirait l'âme, c'est parce qu'on ne pouvait pas entendre cette musique. C'était trop dur à entendre. Parce qu'on n'y est pas.
La tendance n'est pas une entité absolue car rien ne peut tendre vers soi. Donc il dit, ben voilà, c'est comme ça qu'il prouve que la tendance ne préexiste pas à l'âme, ni dans l'âme, ni ne préexiste à l'âme. Si on part des âmes, il pourrait partir d'autre chose. Mais là, il part des âmes. Donc c'est très logique. Ben voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Et donc, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de vivre s'il a raison. Quand je dis c'est plus intéressant, c'est une sorte de... C'est par gratitude que je le dis. C'est pas par... Par intérêt. C'est pas que ça m'intéresse plus, mais que ça rend la vie plus belle dans l'idée de la vie. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut penser ça comme ça. Je suis d'accord, mais... C'est aussi une façon de... Enfin, qu'est-ce qu'on dit dans devenir soi-même? On dit, quand on lit ça dans les magazines, ce qu'on dit, c'est d'aller faire ses courses, en gros. Non?
Moi, instinctivement, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit là. Parce que si...
Alors, il faudrait prendre un truc à l'inverse.
Si les âmes...
Donc étaient différentes par leur action, par leur fait de devenir, dans le temps Ça leur donne une sorte de...
C'est plein de contradictions en même temps, mais ça leur donne une sorte de...
d'existence...
Comme des satellites
qui tournent autour de rien, quoi.
Je sais pas comment dire.
Comme des...
Enfin, j'ai l'impression que c'est très scientifique, moi, comme texte. Donc, tu sens des trucs comme... je sais pas, souvent, les particules, elles se regroupent. Et là, c'est comme si tout était défait, délié, les choses les unes des autres. Un truc qui est tellement en circuit fermé, il n'y a même pas de circuit. Ça tourne même plus, mais c'est... délié, quoi, je sais pas comment dire, un truc alors que c'est pas vrai. Par exemple, un grain de sable, s'il y a un grain de sable dans l'univers, il peut pas tendre vers lui, mais s'il y a une infinité de grains de sable, il y a quelque
quelque chose d'autre qui va se passer, même s'il tendra jamais pas plus vers lui.
Un seul grain de sable ne peut pas être relié à un autre. S'il n'y a qu'un seul grain dans l'univers, mais en fait, moi je pense, ça m'amuse de penser ça, que justement l'univers n'est qu'un grain de sable. Comme lui, il parle de l'individu.
Ouais.
Comme étant un zèbre, il est unique au monde.
Et que l'univers lui-même... Et
personne ne peut... Qui est-ce qui a dessiné les rayures de zèbre?
Oh, c'est le zèbre. Ça, c'est sûr.
Ah bon?
Ah oui.
Moi, c'est personne, c'est comme ça. C'est pour ça que je parle du vide, parce que c'est personne qui nous fait exister. Et ça, on peut... On peut le ressentir.
Que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière. Ouais, j'ai du mal à comprendre pour l'instant de quoi ça parle. Ok, je continue dans la phrase d'après. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte, et ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leur tendance respective. Donc, il faut que je parle toujours, il faut que ça s'entende en fait. Des âmes, des corps, la matière. Des tendances, des choses qui s'attirent, mais. Qu'est-ce qu'il y a?
Est-ce que tu pourrais essayer de lire comme si tu ne comprenais absolument rien au texte?
Vous m'avez dit quelque chose?
Ça tourne.
Ah bon? Ah, je recommence tout ça. Encore? Oh, c'est vachement bien faire ça.
Je m'y oppose, car rien ne peut tendre.
Je viens vers ce texte avec une lointaine filiation qui est Simondon, et je peux pas faire abstraction que c'est un texte sur l'individuation, et je peux pas faire abstraction du fait que Dan Scott est l'inventeur de l'individuation. C'est la raison que les physiciens utiliseront plus tard en disant il n'y a pas de mouvement absolu, le mouvement ne va pas de soi à soi. Bah oui, puisque pour qu'il y ait mouvement, il faut qu'il y ait décalage entre un moment initial et un moment final. Ce qu'il explique là, en disant la tendance n'est pas une entité absolue, ça va de soi. À partir du moment où tu es dans un régime temporel, bien sûr, tu es dans un processus où tout diffère de ce qu'il est. Quand il reconnaît la tendance n'est pas une entité absolue, c'est comme Héraclite qui dirait le fleuve n'est pas une entité absolue. Bien sûr, bien sûr. Ouais, le fleuve tend pas vers lui. Ouais, profondément, il y a temps et il y a mouvement. Profondément, il y a physique.
il décrit ce qui se passe si la réalité humaine n'avait pas toujours besoin de s'exprimer, mais pouvait mener sa vie, qui est aussi peut-être une vie d'angoisse, mais qui est aussi une vie créative, d'évolution incessante. C'est donc vraiment pas pour rien que quelqu'un qui est intéressé par l'individuation était tellement proche des machines, comme c'est pas pour rien que quelqu'un comme Duns Scott, qui a été très proche de l'individuation, ait été proche des anges, parce que c'est exactement la même chose pour les anges. Quand on dit des babyzantins, les anges, quel sexe sont-ils? Ben, simplement, on veut dire que les anges, ils sont de l'ordre de l'indéterminable, ils sont de l'ordre de l'inassignable, ils sont de l'ordre de l'impossible à étiqueter. Donc, ce sont des philosophes, vraiment, ce sont des philosophes qui sont loin du langage.
Et c'est pas pour rien qu'à nouveau, qu'il y a une filiation dans The Scott Simondon, c'est parce que ce sont des gens du concret, des gens profondément concrets, et Simondon beaucoup plus que Duns Scott. Si tant est qu'une brique soit plus concrète qu'un ange, ce qui reste à démontrer.
Je veux dire, les mots, ils stabilisent. Les mots, ils expliquent ce qui est une entité définissable. Les mots, finalement, ils s'appliquent à tout ce qui est des paliers dans notre vie. Et entre les paliers, il y a les marches. Quand il y a les marches, il y a monter, il y a devenir, il y a transformation, il y a évolution. Bon. Donc il y a toute une série de verbes, d'opérations. Et de ces verbes-là, il ne reste qu'une chose, il ne reste que le fait qu'il y ait changement, donc qu'il y ait individuation. Le reste, c'est les paliers, les moments où finalement on se repose, les moments où on souffle, donc les moments où on peut commencer à parler, les moments où on peut commencer à décrire. Il dit il y a changement, il y a évolution, il y a processus, parce que c'est cette animation-là, qui est animation, individuation, c'est presque synonyme, qui est un mot dernier.
Et c'est pas pour rien qu'à nouveau qu'il y a une filiation d'un Scott Simondon, c'est parce que ce sont des gens du concret, des gens profondément concrets, et Simondon beaucoup plus que d'un Scott, si tant est qu'une brique soit plus concrète qu'un ange, ce qui reste à démontrer, bien sûr. Mais...
Si l'on dit que les âmes tendent avec prédilection vers des corps différents grâce à leur aptitude à informer de la matière et que, par suite, elles sont différentes parce que leurs tendances le sont, je m'y oppose. La tendance n'est pas une entité absolue, car rien ne peut tendre vers soi. Par conséquent, elle présuppose une entité absolue et distincte, et ainsi, cette âme-ci diffère de cette âme-là par une différence antérieure à leurs tendances respectives. Par suite, les âmes sont distinctes, abstraction faite de ces tendances, c'est-à-dire abstraction faite d'une telle raison formelle de distinction.
Si moi, j'avais une jumelle et que tu étais ma copine, ma jumelle, elle serait pas obligée d'être ta copine.
Bah non, ils ont juste partagent pas leur cerveau pour deux. Bah par exemple, si des jumeaux, des jumelles, par exemple, si moi j'avais une jumelle et que t'étais ma copine, ma jumelle elle serait pas obligée d'être ta copine. On n'a pas les mêmes relations et sentiments. Parce que tout le monde est différent, parce qu'on n'a pas
c'est quoi la question?
Informer pour moi,
Ils partagent pas leur cerveau pour deux, par exemple. C'est des jumeaux, c'est des jumelles.
Que
par exemple, si moi, j'avais une jumelle,
pas par intérêt, c'est parce que ça m'intéresse, mais ça rend ma vie plus belle, donner de la vie.
Oui, exactement, un truc empirique, quoi.
Alors, c'est pas pour ça qu'il faut le penser comme ça.
Ce n'est pas la question de la poule ou de l'œuf, mais c'est plus la question de je ne me distingue pas par ces choix-là, mais je suis de toute façon distingué, cornu, puisqu'il y a une âme. Cornu, je suis déjà un et indivisible, de manière absolue, et que le reste, c'est relatif peut-être à une époque, relatif à un contexte social, relatif à une situation sociale, et que donc la dignité, finalement, quelque part, un petit peu, la dignité essentielle, parce que c'est un peu de l'essence, finalement, l'âme, qui serait quelque chose qui serait, qui préexisterait à tout corps, inscrit, en tout cas informé, à toute matière informée, eh bien, ne pourrait pas être amalgamé et resterait insécable. Voilà.
Quand on dit que les tendances sont le signe des différences entre les âmes, on nie le fait qu'il y ait du hasard, qu'il y ait de la contrainte, qu'il y ait de l'obligation. C'est-à-dire qu'on fait mine d'oublier
qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour être singulièrement.
C'est à peu près ce que je pense.
Et quant à savoir si je suis d'accord, là c'est une autre question mais qui est un peu en lien.
Si l'on dit que les âmes tendent, à partir du texte de John Duns Scott, le principe d'individuation, paragraphe 231, traduction du latin Gérard Sondag, édition Vrin, 1992. John Duns Scott est né vers 1266 à Duns et mort en 1308 à Cologne. Avec les commentaires de G. François Marandet, Fred Perrier et Catherine Piederrière, Quentin Miyassou, Laurent Chaplat et Joachim Clémence, Noah Lestienne et Alice Vandenbroek, François Grunewald et Véronique de Geoffroy, Bertrand Densler, Stéphane Rive et Marc Baron, Clotilde Axine, Sonia Florence et Benjamin Duboc, Romane Mongeose, Christophe Cervelon, Laurent Pinon, Gilles Chétagnan, Pascal Chabot. Et les voix de Jean Rochereau, Bénédicte Lelamère, Guillaume Allardy, Axel Boguslavski. Les danseurs Lotus Edé Koury et Mouanad Rachid. Prise de son, mixage, Bruno Mourlan. Réalisation, Nathalie Battus. Si l'on dit que les âmes tendent, un atelier de création radiophonique de Jean-Luc Guillonnet et Franck Gourdien. Nous remercions spécialement Gérard Sondag.
Vous écoutez Création On Air, que vous pouvez réécouter ou podcaster sur le site de France Culture. Samedi 13 août à 21h, rendez-vous avec Florence Colombani et Céline Terce pour pénétrer dans le monde du moine de Lewis.